Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière de la semaine, donc le week-end qui s'en vient. Habituellement, ben, ça se passe mieux dans ces cas-là. C'est Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Eh bien, c'est connu, hein? La marche, ça a plusieurs impacts plutôt positifs sur notre santé. Également, des impacts positifs sur l'environnement. Ce qui est bon à savoir est plutôt surprenant. Attention, l'Organisation mondiale de la santé recommande à tous de faire 10 000 pas par jour. C'est énorme. Qui fait ça? Vraiment, 10 000 pas par jour, là, soyez honnêtes, on est très peu en faire autant. Au Québec, il y a environ la moitié, 50 % donc des déplacements de moins d'un kilomètre qui seraient faits en voiture. Est-ce que c'est parce qu'on est paresseux? C'est parce qu'on est trop pressé? Ou encore parce que notre environnement ne permet pas la marche, ne favorise pas la marche parce que, par exemple, il n'y a pas de trottoir? Et bon, dans ces cas-là, évidemment, c'est moins évitant. Comment on peut favoriser une culture piétonne au Québec? J'en parlerai tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec Vanessa Normand, elle, directrice régionale de Vivre en ville. Et puis, pour les femmes, la grossesse, ça peut être une période où notre corps semble plus vraiment nous appartenir. Hein? On a l'impression que tout le monde peut se permettre de faire des commentaires. Là. Et quand je dis tout le monde, c'est autant notre médecin, le conjoint, des inconnus sur notre apparence, poids, ou peut-être parce qu'on n'a pas pris assez de poids, la bedaine, l'alimentation, le mode de vie. Et pour certaines, ça peut créer une source d'anxiété. Ça peut même engendrer une attention qui devient trop importante sur notre poids, donc peut-être provoquer un trouble alimentaire et pour certaines même une rechute d'un trouble alimentaire si on a déjà vécu des épisodes de ce genre dans le passé. Comment vivre une grossesse pendant ou après un trouble alimentaire? J'en parle à l'instant avec Stéphanie Desmec, elle candidate au doctorat en psychologie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Merci d'être là. Approchez-vous un petit peu du micro, vous êtes un petit peu loin Stéphanie. Vous êtes candidate au doctorat en psychologie, mais c'est important quand même de dire que vous avez dans votre CV des réalisations, vous avez travaillé en troubles alimentaires dans des cliniques, votre thèse porte également là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de ça parce qu'il semble que, bon, on est dans une société, je pense, force est de constater qui valorise la minceur et ce même pendant la grossesse. Et pour des femmes, du moins certaines femmes, la préoccupation de notre poids, elle est là. Même pendant la grossesse, on pourrait se dire, bon, OK, je peux un petit peu me laisser aller, je peux prendre du poids, c'est OK. Et pourtant, il y a des risques à avoir un trouble alimentaire ou une préoccupation trop importante pendant la grossesse.
Oui, effectivement, hein, il y a des risques qui peuvent être importants associés à des préoccupations excessives à l'égard que ce soit de l'image corporelle, de l'alimentation ou du poids chez les femmes enceintes. Donc, en fait, on a longtemps pensé que maternité et troubles alimentaires, c'était deux entités qui étaient foncièrement incompatibles dans les faits, de par l'absence de menstruation qu'on retrouve chez les anorexiques. Mais effectivement, ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont présenté un trouble alimentaire ou qui présentent encore un trouble alimentaire et qui portent le désir d'avoir un enfant et même, en fait, qui donnent naissance à des enfants. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un trouble alimentaire et d'être enceinte? Oui, c'est tout à fait possible, mais ça soulève effectivement, comme vous le mentionnez bien, des enjeux particuliers au niveau des conséquences sur la santé de la mère et sur la santé de l'enfant, en plus des enjeux psychologiques que ça soulève. Donc, si je peux résumer peut-être essentiellement les principaux impacts qu'on voit d'une préoccupation excessive ou de conduite alimentaire à risque qu'elles peuvent engendrer sur la santé de la mère, bien, on pense à toutes les conséquences associées à une prise de poids insuffisante pendant la grossesse. Mm-hmm. Donc, que ce soit un bébé de faible poids, un risque accru d'accouchement prématurée ou de césarienne, d'hypertension pour la mère, de diabète de grossesse. Donc, ça peut même aller jusqu'à des malformations congénitales pour l'enfant ou un risque de développement à plusieurs égards. Donc, on voit que les conséquences peuvent être assez importantes et sévères pour une femme et son enfant lorsque elle présente un trouble alimentaire et que ce n'est pas pris en charge adéquatement.
Oui. J'ai l'impression aussi, Stéphanie, que ce que l'on observe, du moins moi je l'ai vu dans mon entourage, ce sont des femmes qui n'ont jamais eu de troubles alimentaires, mais qui après la grossesse, parce qu'il y a une pression sur, bon, la prise de poids, quand on va perdre ce poids-là, la vitesse à laquelle on va le perdre, donc d'avoir une préoccupation qui devient très, très importante sur notre poids, est-ce que ça, c'est un phénomène que l'on observe davantage?
Donc, celui, si je comprends bien, d'avoir plus de préoccupations par rapport au poids suite à l'accouchement. Mais je pense qu'effectivement, ce qu'on remarque, c'est que chez la plupart des femmes enceintes, il y a des insatisfactions qui demeurent puis qui deviennent plus prégnantes suite à l'accouchement par rapport à leur corps. Hein, on remarque qu'environ autour de 70 % des femmes suite à l'accouchement se disent insatisfaites de leur corps. Puis on parle des femmes de la population générale et non pas celles qui présentent un trouble alimentaire. Donc, que oui, ça laisse des insatisfactions, que ce soit, bon, le petit poids résiduel qu'on s'attendrait à perdre de manière plus rapide. Puis en fait, c'est comment justement une confrontation peut-être entre les idéaux qu'on s'est faits et qui sont véhiculés dans la société, hein, de perdre le poids rapidement. Oui. On peut penser aux mannequins là, qu'on voit rapidement retourner sur les podiums, mais est-ce que ça représente dans les faits vraiment la réalité? Je pense que non. Puis comment, en tant que femme, on peut s'accrocher à ces idéaux-là puis être déçue par la suite, donc avec les risques que ça comporte. Dans le fond, pour celles qui présentent davantage des fragilités à ces égards-là, le fait d'être insatisfaites par rapport à leur poids, mais ça peut les amener aussi à adopter plus de comportements à risque pour perdre le poids. Donc, on parle de restrictions, de faire de l'exercice, mais dans certains cas, ça peut être plus dommageable, donc d'utilisation des laxatifs de tout ordre. Donc, et à ce moment-là, ça peut être effectivement très dangereux pour la mère.
On parlait tout à l'heure... bon, des femmes qui peuvent avoir vécu dans le passé des troubles alimentaires. Bon, on parlait d'absence également de menstruation, mais est-ce que lorsqu'on vit avec un trouble alimentaire, on se dit « moi, je ne pourrai jamais avoir d'enfant ». Vous disiez, ce n'est pas nécessairement le cas, mais moi, je me dis on ne veut pas prendre de poids. En tout cas, du moins, c'est ce que l'on pense. C'est peut-être un préjugé, mais on ne veut pas prendre de poids et on ne veut pas que notre corps se transforme. On veut avoir ce contrôle-là de notre poids. Et pourtant, on sait bien que lorsqu'on vit une grossesse, on perd complètement ce contrôle-là. Est-ce que ça peut nous éloigner de l'envie de fonder une famille?
Je vous dirais, je pense que ce qu'on remarque dans la clinique au niveau des femmes qui ont connu un trouble alimentaire ou qui présentent un trouble alimentaire, c'est vraiment l'ambivalence entre, d'une part, le désir d'avoir un enfant qui, lui, est présent, mais aussi la crainte d'accéder à la féminité aussi, hein, à la maternité, donc tout ce qu'il y a de plus féminin dans ce que ça peut en être associé. Donc ça peut être anxiogène aussi pour la mère. Donc je pense que oui, d'une part, ces changements-là peuvent être vécus comme très anxiogène, mais qu'à la fois le désir de donner naissance à un enfant, de porter quelque chose de plus grand qu'elle, oui, ça les anime tout à fait.
Bon, maintenant, on a parlé beaucoup d'impact sur la santé physique. Vous êtes doctorante là, en psychologie. Stéphanie, il y a, j'imagine, également des impacts sur la santé mentale des femmes.
Oui, en fait, associé à vous parler à un trouble alimentaire là, pendant la grossesse. Oui, tout à fait. Je pense que les enjeux sont à plusieurs égards. Peut-être, premièrement, il y a celui de la prise de conscience de la maladie d'un trouble alimentaire que peut amener l'expérience de la grossesse. Hein. Donc là, il n'y a plus la possibilité d'ambivalence par rapport au trouble. Est-ce qu'effectivement, j'ai un trouble alimentaire ou pas? Parce qu'on voit que c'est une des préoccupations qui habite beaucoup les femmes qui ont un trouble alimentaire, hein, que de reconnaître ce trouble-là. Mais là, de par les besoins qu'il faut assurer à l'enfant, il y a tout ce deuil-là qui est nécessaire de faire, puis d'identifier, de reconnaître la maladie. Par ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que peut-être ce qui est plus spécifique aux femmes qui ont vécu un trouble alimentaire, c'est le tiraillement entre, d'une part, le désir d'offrir le mieux à leur enfant, de faire les meilleures pratiques, de compléter la grossesse au mieux en assurant les meilleures pratiques, et puis, d'autre part, avec les impulsivités qui sont liées au trouble alimentaire, hein, qui parfois sont plus fortes qu'elles, les contraignent, les restreignent, et comment... entre ce tiraillement-là, c'est leur sentiment de compétence comme mère qui est mise à l'épreuve.
Ouais.
Et ce qu'on remarque, c'est que ça peut avoir des conséquences très importantes au niveau de la dépression postpartum, en fait, qui a été présente là, dans presque la moitié des cas des femmes qui ont connu un trouble alimentaire.
Mm-hmm. On se le disait tout à l'heure avant que les micros ouvrent, évidemment, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est extrêmement vaste également. En 15 minutes, on ne peut pas aborder tous les aspects des impacts de vivre une grossesse avec un trouble alimentaire. Et en plus, ce qu'on n'aura pas le temps également aujourd'hui d'expliquer, c'est que chaque trouble alimentaire a ses, bon, des spécificités. Mm-hmm. Donc, ça devient encore plus vaste d'en parler. On essaie de faire un résumé. Mm-hmm. J'aimerais ça, Stéphanie, qu'on fasse l'exercice de se mettre un petit peu dans la peau du conjoint ou de la famille. Comment on peut identifier le trouble alimentaire chez notre conjointe pendant la grossesse ou peut-être après et se dire, OK, là, je pense qu'il est temps de faire une intervention.
Mais je vous dirais, au niveau de l'identification, hein, c'est d'être alerte au niveau des commentaires qui peuvent être véhiculés de par la femme enceinte. Hein. Je pense que qu'il y ait trouble alimentaire ou pas, toutes les femmes enceintes ou toutes les femmes en général peut-être sont sensibles aussi à,
oui,
aux petits commentaires de ben, l'impression d'avoir grossi. Puis en dehors du beau petit bedon de maternité, il y a certains changements corporels associés à la maternité qui sont moins bien acceptés, moins bien vécus, hein, que ce soit la rétention d'eau, peut-être la prise de peau au niveau du visage, hein, qui peut susciter beaucoup de préoccupations pour les femmes qu'elles peuvent exprimer. Donc, c'est important d'être, pour ces conjoints-là, d'être à l'affût de ces petits commentaires-là, puis de leur rappeler qu'elles demeurent désirables, qu'elles demeurent belles dans leur corps qui est en train de se transformer pour donner la vie, hein, donc dans mm-hmm. quelque chose de beaucoup plus grand qu'elles.
Ce serait une façon de bien soutenir, finalement, la femme qui vit avec ces préoccupations-là.
Oui, hein, de leur rappeler, en fait, à quel point, malgré les changements, elle demeure séduisante parce que ça fait partie des préoccupations qui les habitent. Puis aussi, beaucoup de prendre, d'investir la maternité autant que leur conjointe, hein, donc de parler au bébé, de s'adresser, de toucher le corps,
mm-hmm.
hein, peut-être pas pour n'importe qui dans l'entourage, mais pour le
ouais.
conjoint. Il y a des nuances à apporter. Mais pour ça que c'est important qu'elles sentent que le conjoint est aussi partie prenante de l'intervention. Puis, dans le cas s'ils présentent des inquiétudes, puis qui peuvent être excessives, hein, à ce moment-là, c'est de, oui, de les inviter à consulter le plus rapidement possible. Puis je pense que leurs médecins traitants, dans le fond, qui font le suivi de leur grossesse, peuvent être un bon allié à ce moment-là parce qu'ils les rencontrent fréquemment.
Si on a vécu dans le passé des troubles alimentaires et qu'en ce moment, on vit une grossesse, est-ce qu'il est important d'en parler le plus rapidement possible à notre spécialiste de la santé? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut exprimer? Est-ce que ça fait partie du suivi de notre santé de future mère?
En fait, oui, tout à fait. Là, c'est très important de pouvoir en parler le plus rapidement possible, hein, parce que bon, on parlait en début d'entrevue des conséquences sur la santé physique
ouais.
de la mère et de l'enfant d'une prise de poids insuffisante. Donc, c'est important qu'ils puissent s'assurer là, de la prise de poids adéquate pendant la grossesse. Puis aussi, ce qu'on remarque, hein, c'est si la grossesse va permettre pour certaines femmes qui ont connu un trouble alimentaire une certaine accalmie
oui.
des, mm-hmm. des préoccupations hein, de par justement la beauté de transmettre la vie puis de porter quelque chose de plus grand tel en se fixant sur cet objectif-là. Par moment, ça peut réduire les préoccupations. Mais ce qu'on voit, c'est que ça revient beaucoup suite à l'accouchement. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup une résurgence des conduites alimentaires.
Donc pendant
risque.
La grossesse, une pause de mm-hmm. ces préoccupations-là.
Mm-hmm.
Mais une fois l'accouchement venu, eh bien là, ça revient.
Oui, et puis c'est là l'importance de faire un dépistage précoce de celles qui présentent là, des vulnérabilités pendant la grossesse, qui vont peut-être pas s'exprimer dans leur conduite, mais qui quand même demeurent dans leurs préoccupations, hein, qui les habitent. Donc, les questionnements qu'elles se posent par rapport à leur corps, leurs angoisses, hein, par rapport à comment ça va se passer l'accouchement, est-ce que je vais perdre le poids nécessaire, est-ce que je vais avoir le poids résiduel qui va me déranger, puis comment on peut prévenir les conduites compensatoires qui pourraient retourner là, suite à l'accouchement. Donc, la grossesse, ça représente vraiment un beau moment où la femme est mobilisée à s'investir dans un processus de guérison pour le trouble alimentaire, peut-être pas pour elle, mais à tout le moins pour assurer le bon développement du bébé. Donc, plus on prend en charge tôt ces femmes-là, plus on peut les accompagner de manière précoce, bien, plus à ce moment-là, on peut éviter les écueils suite à l'accouchement, à la fois pour elle, mais aussi pour le bébé.
Mais j'ai l'impression, et vous me corrigez si je me trompe, Stéphanie, lorsqu'on est enceinte, on a des suivis très, très étroits de la part d'un spécialiste de la santé. Donc, si on a des inquiétudes par rapport à un trouble alimentaire, à nos comportements face à la nourriture, on peut en parler Lorsqu'on a accouché, est-ce qu'on est un petit peu plus délaissé? Et là, si ces préoccupations arrivent à ce moment-là, on est un peu laissé à nous-mêmes.
Effectivement, pendant la grossesse, la femme enceinte a fait l'objet d'un suivi là, qui est plus étroit qu'à n'importe quel autre moment dans notre vie. Puis, en même temps, avec le trouble alimentaire, les femmes qui souffrent d'un trouble alimentaire peuvent être aux prises par de l'ambivalence à dévoiler leurs symptômes du trouble alimentaire à leur médecin, hein, de crainte d'être jugées dans leur sentiment de compétence comme mère. Donc, c'est vraiment important que les médecins puissent ouvrir le discours, puissent questionner les préoccupations en dehors de la pesée puis du poids, de l'alimentation. De la mère, c'est important qu'on puisse parler des préoccupations qui les habitent par rapport à leur corps pendant la grossesse parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir dépister les plus vulnérables d'entre elles et puis là, à ce moment-là, assurer un meilleur suivi au terme de la grossesse puis pendant l'accouchement.
Oui, et puis ici, en plus, c'est un facteur de risque au postpartum. Si on peut intervenir rapidement, détection précoce, tout ça, éviter parce qu'on sait que le postpartum peut engendrer de forts impacts également. Là. Si on peut l'éviter à la mère, mais à la famille également, ça peut être une bonne chose. On avait envie d'aborder ensemble de bonnes, ou en fait, comment le dire, des méthodes adéquates, des pratiques adéquates, en fait, lors des suivis auprès des professionnels de la santé chez les femmes qui vivent une grossesse avec un trouble alimentaire. Est-ce que vous avez des recommandations en ce sens?
Ce qu'on remarque, c'est que pour les femmes enceintes qui ont vécu un trouble alimentaire, il y a parfois l'impression d'une certaine insatisfaction dans les services actuels où il y a un certain bris de service entre les ressources qui sont allouées aux troubles alimentaires et celles qui sont plus en obstétrique, en gynécologie, associées à la maternité. Donc, c'est important qu'ils puissent avoir une conciliation de ces deux suivis-là dans le sens d'adapter les méthodes ou les interventions du trouble alimentaire à la réalité des femmes enceintes. Si l'encadrement alimentaire est important pour la mère, bien, il est tout aussi important pour l'enfant suite à l'accouchement. Donc, la mère a également besoin d'être accompagnée dans ses portions à elle, mais aussi dans quel type de portions elle doit fournir à l'enfant suite à l'accouchement, comment l'allaitement peut être un enjeu qui est très angoissant, qui est très préoccupant. Donc, ça, c'est dans des adaptations qui doivent être mises en pratique là, pour assurer un meilleur suivi de ces femmes-là.
Oui, c'est assez intéressant, ça. On n'y pense pas parce que j'imagine que ça demande un suivi qui est plus spécifique, qui est plus adapté. Chaque femme vit une réalité qui est bien unique à elle.
Oui, effectivement, chaque femme est unique, chaque grossesse est unique. Puis en même temps, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des enjeux qui semblent généralisés à cette population-là de femmes, justement, on parlait de la dépression postpartum, mais on parlait aussi des difficultés suite à l'allaitement. Juste de par le sous-poids, la production de lait peut être difficile, tout l'inconfort aussi qui est associé au fait de s'exposer en public pour allaiter. Donc, comment on peut aider la femme à apprivoiser son corps autrement, à départager aussi qu'est-ce qui appartient de ses enjeux du trouble alimentaire puis de son désir d'offrir le mieux à son enfant.
Donc, oui, ça serait bien également que les médecins et également les organismes qui s'occupent de troubles alimentaires ne travaillent pas en silo.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des ressources pour les femmes, les familles qui nous écoutent?
C'est sûr il y a des ressources qui sont allouées aux troubles alimentaires qui peuvent être aussi là, bien outillées pour les femmes enceintes. Je pense en termes d'organismes communautaires, évidemment, Anorexie Boulimie Québec, ANEM. Puis en termes plus de ressources hospitalières, je pense à l'hôpital Sainte-Justine qui vient de s'offrir aussi une nouvelle aile qui travaille exactement sur cet aspect-là. Là, notamment d'une conciliation entre les aspects de la psychiatrie liés aux troubles alimentaires et ceux liés à la maternité.
C'est important d'être bien suivi, d'être bien outillé parce que c'est une période de la vie qui devrait être tellement agréable.
Oui, tout à fait. Puis c'est une période de grands changements, donc aussi de grandes angoisses. Puis c'est important qu'elle puisse être accompagnée à la fois pour elle, mais aussi pour le bébé. C'est la santé des deux qui y est portée.
Et toute la famille, bien sûr.
Évidemment.
Stéphanie Desmec, je le rappelle, vous êtes candidate au doctorat en psychologie. Merci beaucoup pour cette présence en studio. Ça nous a bien éclairé.
Ça fut un plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Vanessa Normand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice régionale de Vivre en ville. Est-ce que vous avez marché aujourd'hui?
Oui, j'ai marché. J'ai pas fait seulement ça, par exemple, parce que j'avais un rendez-vous à l'autre bout de la ville, donc il a fallu que je prenne mon auto. Mais j'ai également marché pour accompagner mes enfants à l'école.
Quand même, j'ai été bien surprise en préparant cette émission. L'Organisation mondiale de la santé recommande à tous de faire 10 000 pas par jour. C'est énorme. On est sûrement bien peu à le faire ici au Québec, notamment que la marche, c'est pas très valorisé ici. Comment on pourrait faire pour revaloriser, la marche à pied ici dans notre province?
Ben écoutez, à mon avis, il y a deux angles principaux pour revaloriser la marche. Le premier, c'est bien entendu sensibiliser les gens, les sensibiliser aux bienfaits de la marche, mais aussi au fait qu'il y a beaucoup de déplacements qu'on fait actuellement dans nos villes puis dans notre quotidien qu'on pourrait faire à pied, des déplacements de moins de 1 km. Je pense par exemple quand on va au dépanneur, quand on va porter les enfants à l'école, mm-hmm. ou quand on va au gym par exemple. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur auto pour aller au gym. Ça me paraît un petit peu un réflexe étrange, mais on a naturellement ce réflexe-là. Alors se dire, ben pourquoi est-ce qu'on pourrait pas penser à ces déplacements courts de moins de 1 km qui prennent 10 à 12 minutes à faire à pied et puis de les faire justement en marchant, donc pour tous les bienfaits que ça apporte. Et puis l'autre angle qui, à mon avis, est très, très important pour revaloriser la marche, c'est que on aménage nos villes, nos rues, nos villages, etc., en fonction de ce réflexe piéton-là. Donc, on a beaucoup oublié dans les 50, dans les 100 dernières années avec l'arrivée de l'automobile, on a beaucoup oublié la place du piéton. Mm-hmm. À quel point c'est important d'avoir des aménagements sécuritaires, des aménagements aussi qui sont pour tous, que ce soit une personne aînée qui a de la difficulté à traverser une rue en 30 secondes ou une personne à mobilité réduite, peu importe, ou un enfant. Mm-hmm. Il faut penser nos aménagements en ce sens-là. Et actuellement, il y a beaucoup de déficits dans nos rues, ce qui amène des enjeux de sécurité énormes. Donc, effectivement, la marche est du coup dévalorisée. Donc, en réaménageant nos rues, quand on fait des travaux, etc., en les repensant dans le bon sens des choses, en ayant le réflexe piéton, on va beaucoup améliorer ça et donc revaloriser la place de la marche.
Oui, parce que Vanessa, Vivre en ville souhaite valoriser la marche à pied partout en province, pas juste à Montréal. Et j'imagine que ce sont deux réalités bien différentes à Montréal. Bon, souvent, il y a des trottoirs dans nos arrondissements. C'est pas le cas de toutes les villes ou villages là, ailleurs en région. Ça doit être des enjeux bien différents.
Oui, les enjeux sont très, très diversifiés. Je vous avouerai, quand on regardait les chiffres en préparant le projet, nous aussi, on a eu des belles surprises là-dessus. À peu près, on dit dans nos villes au Québec, il y a à peu près 50 % des déplacements de courte distance, donc des déplacements de moins de 1 km qui sont faits actuellement en mode motorisé, donc qui pourrait être fait autrement. Mais mm-hmm. ces 50 %-là, c'est très, très différent d'une ville à l'autre. À Montréal, ça descend presque à 35 %. On est les champions en Amérique du Nord de la marche, en fait, et des déplacements non motorisés, finalement. Mais ailleurs, dans d'autres villes, à Québec, à Gatineau, ou dans des plus petites villes, ça monte beaucoup plus. On arrive, je pense que Gatineau, c'est 51 % et quelques. À Sherbrooke, on est à 55-56 % des déplacements de courte distance qui sont faits en auto. Donc, les enjeux sont très diversifiés d'un endroit à l'autre. C'est certain que marcher sur le bord d'une route de campagne, d'un rang, c'est pas la même chose que de marcher dans un cœur de village. Donc, les enjeux sont très divers, mais on a essayé en tout cas pour cette première année de la campagne de les aborder un petit peu. C'est sûr qu'on a centré pour l'instant nos actions sur les plus grandes villes, mais on espère faire des petits là, puis réussir à faire circuler le message un petit peu plus partout.
Oui, vous parlez de la campagne Tous piétons qui est mise de l'avant par Vivre en ville. Bon, elle visait à quoi cette campagne-là? À sensibiliser les élus, j'imagine, d'une part?
Oui, mais on invitait en fait à la base, on invitait vraiment tous les Québécois à prendre conscience de leurs occasions manquées de marcher. Donc, mm-hmm. comme je disais tout à l'heure, les déplacements de courte distance, là, ceux-là là, qu'on peut aller chercher et qu'on pourrait faire autrement. On le sait, il y a eu des études qui ont été faites. Ces déplacements de courte distance, à Montréal, il y a eu une étude, ça correspond à peu près en moyenne à 2660 pas qu'on perd par jour, par personne.
Wow.
Et ça, juste dans la grande région de Montréal, j'ai pas les chiffres ailleurs parce que les études n'ont pas été faites partout, ça correspond à peu près 837 000 kilomètres, puis ça pourrait être converti en 1 156 millions de pas par jour. Imaginez ce qu'on pourrait récupérer, vous parliez tantôt des
10 000 pas,
par jour.
Ben oui.
on en a beaucoup à récupérer. Donc, effectivement, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment sensibiliser les gens qui prennent conscience de leurs occasions manquées, remettre la marche à l'honneur, souligner l'importance aussi d'avoir des villes faites pour les piétons. Je parlais d'aménagement tout à l'heure. Mmh. Et puis, tous les avantages qui sont liés à ça, santé, économique, sociaux, écologique, etc.
Oui, parce qu'il y a à peu près juste des avantages à marcher, hein?
Il y en a énormément. C'est certain qu'il faut aussi considérer la question de sécurité. Hein. Mm-hmm. Je vous le disais tout à l'heure, les aménagements font que, malheureusement, c'est pas aussi sécuritaire qu'on le veut. Mais en augmentant justement, en augmentant la qualité des espaces publics pour ces questions-là, ce réflexe piéton-là, et puis en augmentant la part de la marche dans notre quotidien, on améliore plein de choses. Hein. Notre santé, c'est la première chose qu'on va améliorer en marchant. Les 10 000 pas par jour, on pense aussi à la santé publique, hein, au coût de santé publique lié aux gens qui se déplacent pas assez, à l'obésité, à toutes ces questions-là, les coûts de pollution aussi. Donc, mm-hmm. Donc il y a énormément de choses qui sont des avantages finalement de la marche.
Je veux également souligner, Vanessa, le cahier spécial de Vivre en ville dans Le Devoir à la mi-octobre qui parlait justement de différents dossiers là, liés à la valorisation de la marche. Très, très intéressant. On pourra le glisser sur le site du Canalem pour aiguiller nos auditeurs à lire ce cahier spécial. En terminant, il y a eu un forum Priorité piéton un petit peu plus tôt cette semaine. Les grandes lignes qui ont été retenues à travers ce forum, Vanessa?
Oui, bien écoutez, il y avait une centaine de personnes qui sont venues, c'était hier, on était à la Grande Bibliothèque, et des gens d'un peu partout, ben, beaucoup de la région de Montréal, bien entendu, mais des gens de plusieurs groupes et des groupes d'action communautaire aussi, des gens qui sont là pour défendre les droits des aînés, les droits des personnes à mobilité réduite qui étaient présentes aussi et qui étaient là un peu pour entendre, pour s'exprimer sur la réalité des piétons au quotidien, mais aussi pour s'inspirer des exemples, s'inspirer des bonnes idées, connaître un peu ce qui se fait ailleurs. Donc, on avait des gens un petit peu très, très intéressés par ces questions-là. Mm-hmm. Puis, ils ont pu, avec les experts qui étaient présents, ils sont revenus sur les défis piétons, les pistes d'aménagement qu'on peut faire. En fait, on les a déjà, les pistes, on les connaît, les solutions. Donc, et pour faire une meilleure place à la marche. Et puis, les gens se sont rassemblés autour de quelque chose à la fin. Ils ont convenu un petit peu que le momentum était là.
Ça sera à suivre, Vanessa. Je dois vous arrêter. Il reste presque plus de temps, mais évidemment, on en apprendra davantage à vivreenville.org. Vanessa Normand, directrice régionale de Vivre en Ville, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Rémi Hermoso à la mise en onde, Christiane Campagnat à la recherche, Marianne Paquette au micro. Bonne fin de semaine. Profitez-en pour vous reposer. Nous, on se donne rendez-vous lundi 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.